Parlons économie sur Radio Lac et les chaînes Carac, avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève.
L'intelligence artificielle devait faire la vaisselle pour que j'ai le temps d'écrire, pas d'écrire pour que j'ai le temps de faire la vaisselle. Phrase que j'adore et qui résume un petit peu toute la question aujourd'hui de l'IA dont nous parlons dans cette émission spéciale avec notamment Julien Schiss, cofondateur de MCJS. Vous formez les gens en intelligence artificielle et j'aimerais qu'on revienne sur cette notion très prégnante, celle des besoins. On le voyait un petit peu plus tôt avec vous, Mélanie Brazzola de l'EHL. Un besoin, par exemple, au niveau des stocks. Ça, c'est une réalité que vous avez aujourd'hui à l'EHL.
Oui, exactement. Ça permet de prévoir déjà ce qu'on aura besoin de commander et éviter les déchets aussi en termes de durabilité.
Et donc, c'est un IA qui peut servir à beaucoup de choses d'un coup. Comment est-ce que ça, très concrètement, ça peut s'intégrer ?
Tout d'abord, il faut comprendre pourquoi c'est fort et pourquoi ça n'aide pas. Donc nous, on aime bien utiliser l'analogie de l'ampoule. Donc on peut faire soit de la chaleur, soit de la lumière. Donc nous, on essaie d'aider les gens à ce qu'ils puissent faire de la lumière. Donc par exemple, encore une fois, si on revient sur les citations de Napoléon, ça va les inventer. Si vous demandez les scores du foot de hier soir, ça va aller sur l'équipe.fr ou sur UEFA.com et ça va écrire les scores faux.
Ou sur radiolac.ch.
Ou sur radiolac.ch, exactement. Ça écrira de toute façon les scores faux. Donc ça, c'est des hallucinations. Donc il faut comprendre où et pourquoi ça peut vous aider à faire de la lumière. Et pour venir sur votre casserole de champignons,
Pardon, je la réexplique juste. Ouais. Ma femme est allergique aux champignons. Donc je me disais, comment est-ce qu'à l'EHL ou ailleurs, on peut facilement utiliser l'IA pour répondre à ce besoin-là ?
Alors, par exemple, je vous parlais de charge mentale. Donc, par exemple, le dimanche soir, les menus de la semaine, si vous avez une famille avec des enfants avec des contraintes diététiques, en coup de 5 à 10 minutes avec ChatGPT, vous avez votre liste de menus pour la semaine avec les recettes. Par exemple, moi, je suis très mauvais cuisinier, donc je vais dire qu'il faut que ce soit 20 minutes de temps de préparation au maximum. Et ensuite, vous avez les listes de courses pour le jeudi soir et le mardi soir, puisque vous avez deux fois par semaine. Ça, en 5 minutes, c'est fait et la charge mentale baisse. Alors après, c'est un exemple privé. On peut faire énormément de choses dans le domaine professionnel également.
Est-ce que, c'est souvent une des critiques qui est formulée, est-ce que ça n'enlève pas aussi une forme de créativité ? Si on ne va plus prendre le temps, pour reprendre cet exemple-là, de chercher ses recettes, de se demander si j'ai le temps de les faire, etc. C'est cette limite entre charge mentale et créativité.
Oui, alors il y a deux choses. La première, c'est que ça ne remplacera jamais l'expertise humaine. Donc par exemple, on a un avocat à la table. Si vous me demandez de faire un brouillon de contrat, je vais le faire avec ChatGPT. Par contre, je n'aurai absolument aucune mesure quant à savoir si c'est bon ou pas. Je n'ai aucune expertise, donc ChatGPT va me faire quelque chose. Je ne peux pas juger de la qualité du document. Donc, il y a un problème d'expertise. Donc, c'est pour ça que c'est très important de toujours contrôler ce qui ressort. Et puis d'une autre part, ce qu'on voit au niveau de la créativité, c'est qu'en fait, c'est plutôt une aide à la créativité humaine. Donc quand on parle d'augmentation, ChatGPT et l'IA générative, ou votre petit stagiaire ou votre co-intelligence, va vous aider à être plus créatif. Donc on peut créer énormément de choses avec ChatGPT en co-intelligence, et ça, c'est probablement un des cas d'usage qui marche le mieux.
Je me retourne vers l'avocat Vincent Subillard.
Oui, de formation en tout cas. Non, mais ce qui est dit ici est très pertinent, en ce sens que c'est tout ce débat sur les limites qu'on peut imposer, encore qu'elles s'imposent d'elles-mêmes, à l'intelligence artificielle. Et jusqu'à quel point, à ce stade, parce qu'elle est évolutive et donc elle est amenée à s'améliorer, elle peut se substituer à des actes humains. Et le domaine juridique, comme le domaine médical d'ailleurs, est un champ d'investigation sans limite. Moi, j'aurais tendance à considérer que, effectivement, pour la rédaction d'un contrat très simple, mais y en a-t-il ? L'intelligence artificielle peut là se substituer, et même parfois, et c'est le risque aussi pour l'emploi, faire mieux que nous, pauvres humains, faillibles et perfectibles. En revanche, au-delà du fait qu'il n'y ait pas la dimension émotionnelle, c'est très difficile aujourd'hui de cibler des cas extrêmement spécifiques qui font appel à une vraie pratique. Moi, j'ai en tête un exemple que je cite souvent, où j'étais amené à donner une conférence à l'université ici à Genève, dans le cadre d'un séminaire précisément juridique, et la personne qui me précède et que j'apprécie beaucoup au demeurant livre un plaidoyer tout à fait bien construit, et a l'humilité d'admettre à l'issue de celui-ci qu'il a été intégralement rédigé par l'intelligence artificielle. Et donc je lui emboîte le pas et jeudi. Alors, mon intervention sera probablement moins intelligente, mais en tout cas, elle n'est pas artificielle, parce qu'effectivement, j'avais consacré 2 heures à essayer de me montrer, de tenir un propos qui tienne la route. Donc, où est-ce que l'on peut mettre la limite? Quel est le degré de substitution? Parce que l'enjeu à terme, et on lit un certain nombre de prédictions, c'est celle de la peur du remplacement, hein, dans un certain nombre de fonctions. Et pour une institution comme la nôtre, qui a vocation, dont l'outil de mesure principal, c'est de la création d'emplois, qui est la meilleure garantie de dignité, ben là, on a des interrogations très légitimes, hein, de la part de la population. Et je pense que c'est important aussi de les rassurer, et d'expliquer que voilà, ça peut se cantonner à un certain nombre de domaines, et de le voir comme une complémentarité, qu'on est dans une logique de soutien, plutôt que dans une démarche de substitution.
Rapidement, Julien Schiss.
Oui, alors ça, c'est fondamental. Hein. Pour être rassuré, il faut essayer les outils. Faire ces petits pas, et vous allez très très vite vous en rendre compte, les limites des outils. Hein. On ne peut pas faire grand-chose sans les utiliser comme il faut, puis sans savoir comment ça marche. Donc au niveau d'être rassuré, pour être rassuré le plus rapidement, utilisez-les, vous allez très très vite rassurer que ça ne remplacera personne. Hein.
Oui,
pas autant de personnes qu'on le pense ou qu'on veut nous faire croire.
C'est vrai que ça dédramatise très rapidement. On continue d'ailleurs d'en parler avec des cas concrets. La Baloise, juste après ceci, sur Radio Lac et sur Carac.